Vous écoutez RTL.
D'abord la curiosité sur la première radio de France avec Thomas et Sidonie.
Et on va remonter le temps et découvrir un homme qui a voulu sauver la tête de Louis XVI et Marie-Antoinette. Il s'agit de Mirabeau, le révolutionnaire qui négociait en secret avec le roi. Une histoire incroyable qu'on vous racontera à peu près vers 14h30 dans l'émission.
Et tout de suite sur RTL, on vous présente les zombies, les vrais zombies.
RTL.
Ce ne sont pas les zombies de l'industrie cinématographique qui m'intéressaient, mais en tant que médecin légiste et anthropologue, c'était la mort sociale et la mort programmée par un clan, en l'occurrence les vaudouisants, en Haïti, d'une certaine personne qui était stigmatisée. Il n'y a pas un mois ou une semaine sans que ça fasse les gros titres. Un homme qui était mort, pour lequel les funérailles ont été chantées, a été revu vivant un an ou cinq ans plus tard.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quand on est curieux, on doit prendre quelques risques. Forcément, on sera servi dans une minute avec les zombies, vous l'avez compris. Bonjour Sidonie, ça va ?
Bonjour Thomas, ça va très bien. Salut à tous, bienvenue dans la curiosité. Une heure pour se cultiver dans la bonne humeur. Ici, on aime dévoiler les coulisses de notre quotidien, percer les secrets de notre histoire, partager le destin des héros français et donc parfois aussi se faire peur.
Et alors je vais vous faire un aveu, c'est en discutant avec ma fille passionnée par les films de genre et notamment par les films de zombies, moi je suis pas fan du tout, je comprends pas qu'on puisse aller voir ça au cinéma, que je me suis posé cette question, mais qui les a inventés ? Parce que pour moi c'était des héros de cinéma et à ma grande surprise j'ai découvert qu'ils existent vraiment. Bonjour Philippe Charlier.
Bonjour Thomas, bonjour.
Bienvenue.
Vous êtes médecin légiste, anthropologue, animateur, on l'a entendu dans la mise en onde de notre réalisateur Sébastien Doudouy, vous présentez régulièrement le magazine de la santé sur France 5. Pour voir des vrais zombies, vous nous emmenez donc à Haïti. En Haïti, pourquoi ?
Parce qu'Haïti est un endroit assez particulier dans le monde. C'est un endroit où a lieu et toujours court ce qu'on appelle le vaudou haïtien. Le vaudou haïtien, c'est un vaudou originaire d'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire, Togo, également Nigeria et Bénin, mais qui a été transformé avec le christianisme, principalement avec le catholicisme, au moment où les esclaves étaient transportés au XVIIe, XVIIIe siècle. Et au fur et à mesure de cette traversée de l'Atlantique, eh bien, les croyances ancestrales ont été un tout petit peu transformées. Et puis, sur place, en Haïti, et uniquement en Haïti a surgi cette croyance, cette possibilité en fait de faire des zombies, c'est-à-dire de créer des non-morts.
Mais alors c'est quoi un zombie au sens où vous en avez rencontré en Haïti ? C'est quelqu'un qui est déclaré mort, c'est quoi un zombie ?
Un zombie, en fait, il y a trois zombies différents. Il y a le zombie classique, c'est le zombie qui a été condamné par une société secrète qu'on appelle les Bisangos, les Chantuels ou les Cochons Gris, c'est-à-dire des descendants des esclaves qui se sont révoltés contre la France au 18e, 19e siècle, et qui savent en fait utiliser des poisons. C'est simple, quand vous avez un différend, eh bien, vous pouvez soit vous en remettre à la justice humaine, la justice classique, on va dans un tribunal, et ça peut être long, très long, déjà en France, imaginez. Alors en Haïti, c'est parfois pire, malheureusement, avec les catastrophes naturelles et tout. L'autre possibilité, c'est d'aller voir une société secrète, et cette fois-ci de dire, voilà, quelqu'un me fait du mal, ou quelqu'un fait du mal à la société, on va essayer de résoudre le problème par un procédé parallèle. Cette personne-là, elle est convoquée pendant la nuit, dans un champ de canne à sucre, dans une plantation dans la nature, et on va lui dire, écoute, t'es bien gentil, mais tu violes, tu tues, tu voles des testaments, des biens ou autres, tu fais du mal à la société, alors soit tu arrêtes tout de suite, soit nous, on va te faire arrêter, et on va te donner une sanction qui sera pire que la mort. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que la mort ? Eh bien, c'est devenir un zombie. Et quand on fait le zombie, eh bien, cette personne-là, si elle persiste, on va lui mettre un petit peu de poudre blanche dans ses chaussures, dans ses chaussettes, dans ses vêtements, ou sur son bureau. Cette poudre, qui est un véritable poison, va rentrer à l'intérieur de son corps et va le transformer en un zombie.
Et on expliquera tout à l'heure d'où vient cette poudre, comment elle est préparée et fabriquée.
Et Philippe Charlier, c'est une religion, c'est-à-dire que c'est une religion qui permet de rendre justice en Haïti, c'est tout à fait légal de faire le vaudou et de transformer les gens en zombies ?
C'est complètement illégal. C'est-à-dire que c'est toléré par la religion, mais ça n'est absolument pas une caractéristique de la religion vaudou. C'est quelque chose qui se fait en parallèle. C'est un petit peu comme de la magie noire, sans jeu de mots. C'est une magie qui est néfaste, mais qui normalement ne fait pas partie du credo, des choses habituelles du vaudou haïtien, qui est une religion aussi respectable que le catholicisme romain.
Quels sont ses fondements ?
Du bouddhisme ?
Non, de la religion vaudou.
Ses fondements, c'est l'idée qu'il y a une force unique qui mène le monde, un dieu unique qui se préoccupe pas trop des humains, mais qui a ensuite diverses formes. Un dieu du fer, un dieu des éclairs, un dieu de la terre, un dieu des eaux. Ce sont diverses formulations, divers aspects d'un grand tout qui mène le monde. Et la magie est là pour rétablir une sorte d'équilibre. Lorsqu'il y a trop de mal, on fait un petit peu de mal au mal, ce qui fait revenir le bien.
80% de la population haïtienne est catholique, je crois. Est-ce que ça veut dire que ça se marie avec le vaudou? C'est une religion mixte, en quelque sorte, dont vous nous parlez là?
90% de la population est chrétienne, ouais. 90% de la population est également vaudouisante. Voilà, on a deux religions,
les
parfois
deux en même
trois.
Temps.
Ça ne pose absolument pas de problème. On va le matin au péristyle, dans le temple vaudou, ouais. Et le soir, on va à la messe. On a exactement la même chose au Bénin, quand on pratique cette fois-ci le vaudou classique, mmh. et le christianisme. Ça pose pas de problème.
Philippe Charlier, vous publiez Zombies, enquête sur les morts vivants. C'est aux éditions Talendier, dans la collection de poche des éditions Talendier. Vous allez nous décrire une cérémonie vaudou de zombification. Il s'agit donc, si j'ai bien compris, d'empoisonner un homme ou une femme. Si vous n'avez pas trop peur, restez sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les zombies existent, n'en éteignez surtout pas votre radio, c'est pas une blague, vous êtes sur RTL, c'est la curiosité, jusqu'à 15h et il faut aller sur l'île d'Haïti pour les croiser. Comment ces hommes et ces femmes sont-ils devenus ces somnambules décharnés parias de la société? C'est notre invité, le docteur Philippe Charlier, qui raconte. Je rappelle que vous êtes allé enquêter en Haïti et là vous découvrez le poisson qui est la cause de tout. Comment s'appelle-t-il?
C'est un poisson
qui devient poison, hein, j'ai bien compris.
Un poisson qui devient poison, il n'y a qu'une lettre entre les deux. Ouais. Et en l'occurrence, il s'appelle le foufou, là-bas, en Haïti et dans les Caraïbes. On l'appelle aussi le fougou au Japon. Si vous allez au Japon, on vous proposera peut-être d'en manger. C'est une expérience un peu dangereuse, puisque en fait, tout est toxique dans ce poisson. Tout est potentiellement mortel, sauf la chair. Mais les arêtes sont toxiques, le foie, la bile, les intestins, même les arêtes.
Il faut savoir très bien le préparer.
Ah oui, il faut le savoir, même il faut passer un diplôme, dont une des épreuves du diplôme est de manger soi-même sa préparation culinaire. Donc voilà.
Oui, c'est une épreuve éliminatoire.
On peut dire ça. Et donc en Haïti, donc on a bien compris, tout ce qui est dans ce poisson est toxique. Comment ce poisson est-il transformé en poison?
En fait, il faut imaginer que pour faire ce poison, on travaille dans des laboratoires ultra protégés et sécurisés en France ou en Occident. Et là-bas, ça se fait dans des gargotes, sur un plan de table, dans aucune condition de précaution particulière, ce qui est vraiment une gageure. En l'occurrence, une poudre est réalisée, une décoction à partir de ces éléments toxiques et les écailles principalement. Et tout ceci est mis dans un endroit qui va ensuite pénétrer à travers la peau de la victime.
On cible une victime, on a bien compris. Dans le cadre de ce culte vaudou, on a quelqu'un dont on veut se débarrasser, qu'il faut éliminer parce qu'il est nuisible à la société. Et là, on le piège, en quelque sorte.
En fait, on le piège. On va l'empoisonner un petit peu comme les empoisonneurs au cyanure ou à l'arsenic dans les périodes anciennes en Occident. On va lui mettre cette poudre dans un endroit qui va être au contact avec sa peau. Sauf que la molécule, qui s'appelle la tétrodotoxine, ne passe pas la peau naturellement. La peau est imperméable à cette molécule. Du coup, il va falloir ruser un tout petit peu. Et c'est là qu'on voit bien qu'on est aux confins entre la science pure, fondamentale, et la magie, l'alchimie, des choses un petit peu abracadabrantesques. On va rajouter une substance pour que la personne se gratte. Et donc, du coup, pour qu'en se grattant, cette substance passe la peau. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Des substances dont on dit qu'elles sont urticariantes. Elles provoquent le fait de se gratter. Et on va prendre de la bave de crapaud. On va prendre du suc de vipère, des choses dont on sait biologiquement, scientifiquement, qu'en effet, ça provoque le grattage, mais c'est quand même un tout petit peu fantastique.
On est un peu dans la sorcellerie.
Comment ces humains qui sont transformés en zombies tombent-ils malades? Ça prend quelques heures, quelques minutes, quelques jours, et dans quel état sont-ils concrètement?
Ça prend 4 heures à peu près. 4 à 6 heures pour être plongé dans un état de mort apparente. C'est-à-dire que la personne continue toujours de vivre, elle est consciente, elle entend tout, elle voit tout, elle comprend tout, mais son rythme cardiaque diminue énormément.
Est par terre? Elle ne marche plus?
Elle est allongée. En fait, elle est allongée comme un mort, tout simplement. La température baisse, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire. Et on peut vraiment passer complètement à côté du diagnostic de vie persistante pour ces gens-là.
Attendez, même un bon médecin légiste peut penser que ce zombie est mort, que cet être humain est mort?
Alors, il n'y a pas beaucoup de médecins légistes en Haïti. Oui. À ma connaissance, il y en a un. Et là-bas, c'est un peu une incongruité. Le certificat de décès n'est pas signé par un médecin en Haïti, mais depuis le code civil qui date du tout début du 19e siècle, ce sont deux témoins civils qui signent ça, généralement des membres de la famille. Vous comprenez qu'il y a un petit conflit d'intérêts, généralement ce sont ceux qui ont commandité l'assassinat,
et oui.
D'ailleurs c'est pas un assassinat mais presque, oui. Qui se débrouillent pour signer ce certificat.
Mais ensuite, ces zombies, ils sont enterrés vivants ?
Ils sont enterrés vivants.
Il y a une cérémonie ?
Alors il y a une cérémonie, tout se passe généralement la même journée, hein, pour des raisons économiques, on va pas pouvoir garder le corps longtemps au funérarium, il fait très chaud et autres, donc généralement on enterre la personne, on met le poison vers 6-7 heures le matin, vers midi la personne est déclarée morte, vers 15h, 16h, on l'enterre.
Et il est conscient, on est bien d'accord. Il se rend compte qu'on le met dans une boîte, qu'il entend les clous.
La boîte s'appelle un cercueil. C'est pour être précis, justement, on est bien d'accord. Et là-bas, les cercueils sont assez souvent avec une vitre au niveau du visage pour qu'on voit encore jusqu'au dernier moment le visage du mort. Et là, on se débrouille pour lui garder les yeux ouverts. On ne lui ferme pas les yeux, on lui laisse les yeux ouverts pour qu'il voit.
Il voit sa sanction, quoi. Il voit ce à quoi il a été condamné.
Est-ce que c'est comme dans les films de zombies que la fille de Thomas adore ? Les zombies tapent sur la vitre, se déchaînent et sortent. Seul de leur cercueil, qu'est-ce qui leur arrive ?
Il ne peut pas bouger. Il est complètement comme dans un scaphandre. Il ne peut pas bouger, il assiste à tout. Il ne peut même pas pleurer ou autre chose.
C'est le poison qui provoque ça ?
C'est le poison qui provoque une paralysie complète. Il est incapable de bouger. Les seules choses qui marchent encore, c'est les poumons et le cœur.
Et alors, comment sont-ils sortis de terre ? Ça fait partie du rituel ? Il y a une cérémonie ?
Il y en a que j'ai rencontrés et qui m'ont dit qu'ils avaient vu les dernières pelletées de terre qui tombaient sur la vitre, jusqu'à l'obscurité complète, et ensuite le grand silence, une fois qu'on ferme la pierre tombale, et là tout le monde se disperse. Il y en a une autre qui m'a raconté qu'on lui avait, au moment où on l'a mise dans le cercueil, il y avait un clou qui était mal mis et qui lui a embroché la cuisse, mais elle n'a pas pu crier parce qu'elle était dans cet état de mort apparente, mais elle s'en souvient encore très très bien. Alors évidemment, il ne faut pas les laisser trop longtemps, parce que sinon la mort apparente va devenir une mort réelle, et dans la nuit, ils sont sortis par un sorcier, et à nouveau c'est très fantastique, les aides du sorcier s'appellent les loups-garous.
Philippe Charlier, vous avez rencontré ces zombies. Que deviennent-ils une fois qu'ils sont sortis de leur cercueil ? Récit dans un instant sur RTL Les Curieux.
Bonjour Marina Giraudeau.
Bonjour Julien Cellier.
RTL Petit Matin.
C'est un plaisir de vous réveiller, de vous informer et de vous étonner.
Interactivité, info, bonne humeur, c'est le menu de votre petit déjeuner.
Avec le surf de l'impertinent Cyprien Sini, l'expertise politique et économique de Pauline de Saint-Rémy et Christian Menanteau, les bonnes recettes du chef Pasto.
Et puis vos témoignages, vos avis sur l'actualité au 3210.
RTL Petit Matin avec Julien Cellier, chaque matin à 4h30 sur RTL.
Est un vilain défaut.
C'est un produit à la fois toxicologique et de rituel magico-religieux. Il faut y croire, entre guillemets, mais il faut également être intoxiqué par des produits, notamment un produit qui s'appelle la tétrodotoxine, qui est extraite d'un poisson, le fougou.
RTL.
En Haïti, la déclaration de décès, les certificats de décès ne sont pas faits par des médecins, ils sont faits par deux témoins, généralement des membres de la famille.
Ici Denis Bonnec, Thomas Hugues.
On croyait les zombies réservés aux salles de cinéma ou aux clips de Michael Jackson. Et pourtant, avec notre invité, le docteur Philippe Charlier, on découvre qu'ils existent sur l'île d'Haïti. Je rappelle que vous êtes médecin légiste. Qu'est-ce qui vous a poussé à enquêter sur ces morts vivants pour ce livre sorti chez Talendier et aussi pour ce documentaire dont on a entendu un extrait à l'instant ?
Alors, déjà, en tant que médecin légiste, ça m'intéressait de voir quelles étaient les définitions de la mort dans d'autres cultures. Et puis, comme je pratique ce qu'on appelle l'anthropologie médicale, c'est-à-dire l'étude de l'homme et de ces rituels à partir de l'anthropologie et de la médecine, ce cas-là était vraiment, vraiment le meilleur. C'est-à-dire qu'on a une double approche qui est possible. Soit ces gens sont morts réellement, soit ils sont morts symboliquement. Et puis il y a d'autres types de zombies qui sont les zombies psychiatriques et les zombies sociaux. Il y a des gens qui n'ont jamais subi ce type de rituel, mais qui sont persuadés d'être morts. Ils font ce qu'on appelle une nécromimie. Alors il y a un syndrome que vous connaissez peut-être qui s'appelle le syndrome de Cotard. Dans le syndrome de Cotard, qui est un trouble psychiatrique, les gens sont persuadés d'avoir une partie de leur corps qui est morte.
C'est fréquent ça ?
C'est pas fréquent, c'est plutôt rare, mais alors c'est assez extraordinaire. J'en ai croisé une fois quand j'étais interne à Lille, et je m'en souviendrai toute ma vie. La personne voulait qu'on l'ampute de son bras, qu'il considérait comme nécrosé, alors qu'il était complètement vital.
En parfait état.
Ouais. Et donc, une forme extrême peut-être de considérer que la personne est complètement morte, et c'est un trouble psychiatrique.
En Haïti, on retourne en Haïti pour comprendre ce phénomène des zombies. Il y en a beaucoup ?
On en dénombre à peu près un millier. Et en fait, quand on lit un des quotidiens nationaux qui s'appelle Le Nouvelliste, il y en a en moyenne un par semaine, un toutes les deux semaines qui est déclaré. Et généralement, ça fait la une parce que c'est quelque chose que les gens aiment. Ça leur rappelle d'abord la toute-puissance du vaudou et des pratiques de sorcellerie qui sont rattachées au vaudou, même si je me permets d'insister, c'est pas... Ça appartient au vaudou, mais c'est vraiment pas lié stricto sensu à la pratique orthodoxe de la religion vaudou. Et puis,
ça ne touche que les adultes, pas les enfants ?
Si, ça touche les enfants. Il y a un bokor, c'est-à-dire un sorcier vaudou, qui avait essayé de faire la preuve de l'efficacité de son pouvoir magique, qui avait zombifié son propre fils de 14 ans. Voilà, et ça a bien marché. Il l'a sorti vivant du tombeau quelques heures plus tard.
Philippe Charlier, des zombies, vous en avez croisé quelques-uns en Haïti. Racontez-nous l'histoire de Jacques Ravix. Qui est-il et par qui a-t-il été empoisonné ?
Jacques Ravix, c'est d'abord un confrère gynécologue formé à Besançon, dans le Doubs, puis à Paris, qui ensuite est revenu travailler à Port-au-Prince, en Haïti. Et lui, malheureusement, aurait été zombifié par sa belle-mère. Toujours se méfier de la belle-mère.
C'est une leçon.
C'est une
leçon de base.
Dans le doute, méfions-nous de la belle-mère.
Je dis ça comme ça. Je pense pas à la mienne, rassurez-vous.
Non. La mienne est sympa aussi, ça.
Oh, la mienne, elle est extra.
Bon, on est tranquille. Ça va. Dans le studio, il y en a qui font la tête quand même.
On va créer un club. Lui, malheureusement, ça se passait mal. Et en fait, sa belle-mère l'a empoisonné jour après jour en augmentant progressivement les doses de tétrodotoxine jusqu'à ce que la dose soit efficace. Donc, c'était sur les accoudoirs de son bureau. Et donc, comme il me disait, quand il écrivait les manches remontées, des ordonnances au fur et à mesure du temps, eh bien, il s'empoisonnait de ce poison qui a failli lui coûter la vie. Lui est allé quasiment jusqu'au cercueil, puisqu'il avait été... il était en housse et il allait être déclaré mort au moment où...
Il n'a pas été enterré.
Comment il décrit, puisque c'est un médecin, il a aussi forcément du recul, comment Jacques Ravix décrit la zombification ?
D'abord, pour lui, c'est un produit extraordinaire. Il est fasciné par ce produit qui a failli le tuer. Malheureusement, il décrit donc du coup une paralysie, on appelle ça une asthénie, c'est-à-dire une fatigue vraiment extrême, jusqu'à un anéantissement complet de ses forces, une perte complète de son libre arbitre. Il était devenu un zombie tel qu'on l'entend, c'est-à-dire quelqu'un qui est un corps sans cerveau. Voilà, un corps sans cerveau. Et surtout, quand il a perdu connaissance, il a des zones de son corps qui se sont nécrosées. Il a perdu le bout de sa langue, par exemple, qu'il est obligé de cracher. Et puis, il a toujours maintenant des paralysies.
Il a des séquelles.
Ça l'a bien amoché, oui. Parce que... À partir d'une certaine dose, en fait, le débit de sang diminue au niveau du cerveau et ça peut donner des séquelles. Puis, généralement, il n'y a pas que ce produit-là. Oui. Dans les poudres à zombies, il y a d'autres produits toxiques qui peuvent laisser d'autres lésions, notamment au niveau du cerveau.
Des histoires de zombies, malheureusement, vous en avez, ou heureusement, parce que c'est quand même fascinant, encore plein vos valises, puisque vous êtes un voyageur et un médecin. Avec vous, on va pousser la porte d'un cimetière, forcément, à Haïti. Et là aussi, il y a plein d'histoires à découvrir.
Et dans la seconde partie de l'émission, on vous raconte l'histoire d'un homme qui a failli sauver Louis XVI et Marie-Antoinette de la guillotine. Il s'agit de Mirabeau.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Le médecin légiste Philippe Charlier est notre invité dans la curiosité. Avec vous, on se balade en Haïti. On a découvert les zombies, les vrais zombies qui font partie, on va dire, ou si j'ai bien compris, c'est un peu une déviance du culte vaudou. Forcément, pour mener votre enquête, vous êtes allé dans les cimetières haïtiens. À quoi ça ressemble ?
C'est extrêmement vivant, un cimetière haïtien, puisque vous avez évidemment des funérailles, mais bon, vous avez compris que parmi les morts qu'on enterre, tout le monde n'est pas entièrement mort. Et puis, quand vous vous promenez sur les sépultures, vous avez beaucoup de petites poupées vaudou. On appelle ça des wanga, là-bas. Et en fait, ce sont des petites poupées qui sont à l'effigie de la personne cible contre laquelle on veut envoyer un sortilège, et au sein de laquelle on a mis des poils, des cheveux, des objets de la vie quotidienne qui appartiennent à la cible. Il faut absolument qu'il y ait une part physique de la victime dans la poupée, sinon ça ne marche pas. Alors du coup, on paye quelqu'un pour aller récupérer des poils, des cheveux dans la maison, une pièce de monnaie, un papier écrit ou ce genre de choses.
Aussi dans ces cimetières haïtiens, Philippe Charlier, on peut voir des chaises en osier dans les arbres. Mais pourquoi faire ?
Eh bien ça, c'est pour dire, tiens-toi tranquille. C'est l'équivalent de, si vous me permettez, ouvrez les guillemets, les ferme ta gueule qu'on retrouve, fermez les guillemets, qu'on retrouve au Bénin. Le but, c'est toujours de fixer. On dit... En fixant ces chaises-là, avec à nouveau toujours une petite partie physique de la personne cible, eh bien on les cloue sur un arbre et ça veut dire à la personne cible, ne bouge pas, laisse-moi tranquille, arrête de me regarder et surtout arrête de me harceler, parce que regarder en fait c'est jeter le mauvais œil sur quelqu'un. Mmh. Et donc c'est une sorte de contrepoison, de contre-pouvoir envoyé à quelqu'un qui veut du mal.
Merci beaucoup Philippe Charlier. Je rappelle
Philippe.
Le titre de votre ouvrage avec beaucoup d'autres détails et d'autres histoires à découvrir. Zombie, enquête sur les morts vivants en format poche qui vient de sortir aux éditions Talendier. Et puis on vous retrouve toutes les semaines sur France 5 pour le magazine de la santé avec Marina Carrère-Dancausse. Merci.
Vous écoutez RTL.